Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Histoire du soir avec Olivier Burette. Et ce soir, nous sommes le 29 juin 2017 et nous allons conclure notre cycle de l'année 2016-2017 en abordant tout simplement une question, vous allez le voir d'ailleurs rapidement, bien sombre, qui concerne l'ordre noir de la SS, c'est-à-dire toute la mystique qui va graviter autour du régime donc nazi, qui va durer, comme vous savez, de 1933 à 1945, et sévir en Allemagne, puis en Europe, jusqu'à provoquer les grandes hécatombes de la Seconde Guerre mondiale. Alors, au préalable, évidemment, avant de rentrer dans le sujet de ce soir, il faut quand même rappeler que cette organisation, cet état dans l'état qui a été la SS, c'est-à-dire la Schutzstaffel, qui était à l'origine en fait un échelon de protection, c'est-à-dire une garde personnelle tout simplement pour protéger le leader du parti nazi qui était Hitler, eh bien va se développer considérablement à partir de sa fondation le 4 avril 1925, c'est-à-dire dans la période encore de la République de Weimar en Allemagne, bien avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler, et jusqu'à devenir un État dans l'État qui va notamment au plus fort, si je puis dire, de la période de la Seconde Guerre mondiale, tout simplement avoir la gestion de l'administration, de tout le système concentrationnaire nazi, cette planification quasi scientifique et sordide de l'anéantissement d'un certain nombre de catégories de la population jugées vouées à mourir et ou à disparaître dans l'idéologie nazie. Commencer par les juifs, mais aussi les tziganes, les homosexuels, les communistes, les slaves, etc. Alors, au préalable, évidemment, il faut quand même rappeler que, déjà que dans ce système d'extermination, 5 millions de juifs ont été éliminés, dont 3 millions dans les seuls camps de la mort gérés par les SS. Et le bilan total de la Seconde Guerre mondiale, qu'on rappellera aussi, qui est de 60 millions de morts. Donc c'est d'abord ça quand même, l'image de ce régime et de cette structure. Mais ce qui nous intéresse évidemment ce soir va être de dégager un peu une espèce de mystique, c'est-à-dire de fondation d'une quasi-religion nouvelle, si on peut dire, autour de cette structure de l'ASS, dont le chef incontesté sera Heinrich Himmler, on aura l'occasion d'en reparler, et qui ne va avoir de cesse que de vouloir créer une mythologie tout autour, donc qui devait se graviter tout autour du régime nazi afin de justifier évidemment toutes les théories mises en place par Hitler, évidemment de pouvoir ainsi en quelque sorte trouver un moyen de légitimer tout ça. Alors on va voir rapidement ce soir, en trois parties, rappeler ce que ça a été que cette structure, comment elle s'organise à partir de 1925. Et puis ensuite, dans les deuxième et troisième parties, on va rentrer, si je puis dire, au cœur de la symbolique de ce régime, de ce système de la SS, avec un lieu que va choisir Himmler pour installer une sorte de quartier général, en quelque sorte, donc de l'ordre noir de la SS, qui va être le château de Wewelsburg. Et puis on terminera en esquissant un peu ce qu'a été cette forme d'idéologie donc mis en place, le tout bien sûr étant finalement, notamment à partir de 1941-42, emporté bien sûr par la vague de ce que sera la dernière partie de la Seconde Guerre mondiale, qui évidemment verra l'anéantissement total du Troisième Reich et de l'Allemagne, et évidemment de toutes ces théories dont on va parler ce soir. Alors, cet échelon de protection, et on appelle ça l'ordre noir, pourquoi ? Parce que tout simplement, les membres de cette milice paramilitaire, pourrions-nous dire, étaient vêtus de noir, tout simplement, et ils s'opposaient en cela à la milice du parti elle-même, qui était les sections d'assaut, qui avaient la chemise brune, le brun était la couleur du parti nazi. Donc fondée le 4 avril 1925, c'est une garde personnelle à la base d'Adolf Hitler, chargée de le protéger au sein du parti nazi, le NSDAP. On le sait, quand Hitler, donc bon, évidemment pendant la période de la conquête du pouvoir, effectivement on reste dans le cadre d'une structure de protection, bien sûr. Et puis Hitler finit par arriver au pouvoir, il est élu, ne l'oublions pas, il s'agit d'élections, d'élections libres, qui ont lieu en janvier 1933, 30 janvier 1933, où les nazis donc ont la majorité au Parlement, et le vieux président de la République, ce qui est encore la République de Weimar à l'époque, le maréchal von Hindenburg, appelle Hitler pour former un gouvernement et donc pour être le chancelier. Et il y aura bien sûr plus tard le Führer, puisque très rapidement, dès que les nazis arrivent au pouvoir, ils vont mettre en place un État totalitaire, avec évidemment au cœur de celui-ci la justification de toutes les théories raciales et expansionnistes, le pan-germanisme, tout ça mis en place et annoncé dès les années 20, rappelons-le, dans l'ouvrage d'Hitler, Mein Kampf. Il ne faut jamais oublier ça. Dans toute cette histoire, dont on voit un aspect quelque peu original ce soir, tout cela a été écrit et indiqué de manière précise dans un livre que personne ne pouvait ignorer. Alors, cette structure, donc, va se développer jusque la fameuse nuit des longs couteaux 1934, qui est un règlement de compte interne du parti nazi. Nuit des longs couteaux où la milice du parti, dont je parlais tout à l'heure, les sections d'assaut sont tout simplement éliminées. Du parti, et toutes les sections d'assaut vont être fondues désormais dans une seule et unique structure, que sera donc la SS, qui va donc devenir désormais une sorte d'élite entre guillemets paramilitaire du parti nazi. Donc voilà où on en est effectivement au début de la mise en place du régime nazi. Alors évidemment, c'est une structure extrêmement hiérarchisée, militaire, avec évidemment des grades divers dont je vous passe évidemment les détails. Elle va être restructurée à partir de 1934, comme on vient de l'évoquer, et elle va absorber à partir de 1938 et puis après 1942 avec le début de la guerre en 1939, également les structures à la fois de la police politique et des services de renseignement, la Schutzpolizei, gendarmerie, police municipale appartiennent désormais à la SS, ainsi que la Gestapo, la fameuse Gestapo, la Geheimstaatspolizei, la police des frontières, police criminelle, là également aussi, désormais, vont intégrer l'appareil de la SS. On a là vraiment, progressivement, pendant toutes les années 30 et jusqu'au début de la guerre, la mise en place vraiment d'une sorte d'État dans l'État, et bien sûr, avec à sa tête donc Heinrich Himmler, donc, qui sera considéré comme un des plus fidèles alliés et membres du parti, des plus proches de Hitler, et qui va avoir pour tâche, tout simplement, donc, de mettre en place l'idéologie développée par Hitler dans Mein Kampf. Voilà donc ce qu'il en est pour ce que l'on peut dire de la structure elle-même. On le sait également à partir de 1942, puisque dès le début du régime, les premiers camps sont ouverts, le système concentrationnaire va se développer très rapidement avec des camps d'extermination, et en 1942, on le sait, une conférence restée strictement célèbre, la conférence de Wannsee, tout simplement décider de la question, de la solution finale de la question juive, les SS donc vont se voir confortés dans le rang, leur rôle principal, effectivement, de gérer toute cette structure. Ce sont des noms de camps aussi célèbres, tristement célèbres que Auschwitz, que Birkenau, que Dachau, que tant d'autres, et de mettre en place tout cela, évidemment, comme l'histoire l'a retenu. Alors, ne pas oublier non plus qu'il y a deux structures. Il y a cette structure centrale qui est la SS, dont on a parlé maintenant, et une autre, qui évidemment lui est rattachée, qui s'appelle la Waffen-SS, qui est la partie militaire, si on peut dire, la partie guerrière, qui participera à la guerre sur les fronts, front de l'Est, front de l'Ouest, front du Sud, en Afrique du Nord, on les retrouvera partout en Italie, pendant toute la guerre, chargée évidemment, là aussi, de figurer une forme d'élite militaire par rapport à l'armée classique, la fameuse Wehrmacht. Dans toute cette histoire, on a en effet le souhait de développer par Himmler, dont on avait déjà parlé au sujet notamment son soutien à certains archéologues comme le fameux Otto Hahn, qui faisait des fouilles, rappelez-vous, qui était un passionné du catharisme, qui faisait des fouilles dans les Pyrénées. Eh bien, une volonté de tout simplement essayer de justifier toutes les théories sur la supériorité de la race allemande, le fameux aryen développé dans les théories de Hitler. Et Himmler va être chargé, effectivement, par tous les moyens, de trouver des artefacts religieux, dont on va parler tout à l'heure, mais aussi de mener des missions de par le monde, en Mongolie notamment, dans les pays asiatiques, pour tout simplement démontrer, rechercher déjà les origines de ce peuple aryen, de démontrer que ce peuple supérieur a existé il y a déjà très longtemps, et puis tout simplement légitimer un peu toute cette théorie en créant vraiment une mystique, une espèce quasi de centre de recherche, pourrions-nous dire, justifiant toutes les théories nazies. Alors, va se trouver au cœur de tout cela un château, effectivement, le château du Wewelsburg. Château du Wewelsburg situé en Westphalie, dans le nord-est de la Rhénanie. Et dans ce château, tout simplement, Himmler va installer une sorte de quartier général, de l'ordre noir de la SS. Alors, le château est bâti selon un plan en triangle. C'est un château qui, évidemment, est ancien, il sera le quartier général de la SS à partir de 1934, sous la direction de Heinrich Himmler. Wewelsburg a été construit de 1603 à 1609. C'était une résidence de campagne des princes-évêques de Paderborn, donc là on parle de la période du Saint-Empire romain germanique, encore. Il est restauré par le prince-évêque Dietrich Adolf, après les dévastations de la guerre de 30 ans, et en 1802, le château devient la propriété de la couronne de Prusse. Alors, en novembre 33, Hitler donc est en quête d'un bâtiment. Il voudra en faire une école SS, l'emplacement de ce château trouve tout à fait probant et intéressant pour en faire donc ce quartier général. Alors, l'idée va être de dispenser des cours pour les officiers sur la fameuse mythologie qu'on est en train de mettre en place, l'archéologie sur l'art qui était enseigné et les domaines d'activité comme la préhistoire, l'histoire médiévale, les études folkloriques, la mise en place de la bibliothèque, d'une bibliothèque de la Schutzstaffel, hein, donc bibliothèque de la SS, hein, et évidemment une école qui sert au renforcement de l'idéologie nationale socialiste. Il ne faut pas perdre de vue, hein, qu'avec le régime nazi, hein, comme avec le fascisme, comme avec le communisme, si on est dans des régimes de type totalitaire. C'est-à-dire tout à fait différent d'une dictature, hein, où vous avez un petit groupe qui prend le pouvoir, qui oppresse le peuple, là c'est le totalitarisme, c'est-à-dire on lave les cerveaux, hein, des gens, on reconstruit complètement toute la société, hein, et il n'y a pas d'autre idéologie que celle qui est mise en place, hein, et donc on procède évidemment, hein, vraiment à un matraquage, hein, de la population pour la convaincre, hein, tout simplement, que eh bien de l'idéologie nouvelle. Hein. Alors, dans ce château, on va trouver une salle des généraux. Hein. Sur le sol, en marbre, a été installé un ornement vert foncé, une mosaïque circulaire au milieu de laquelle se trouve un disque d'or. Hein. C'est le terme du soleil noir désignant la roue solaire de Wewelsburg. Hein. Alors là, on retrouve toute la mystique des SS qui veulent se rattacher aux anciens Germains. Hein. La vieille roue solaire, les runes, hein, le fameux langage, hein, de cette époque-là. Et dans le sous-sol, une chambre pour la prière inachevée. Donc il y a une espèce de mise en scène dans ce château, évidemment, pour organiser des cérémonies, hein, à la gloire donc de l'idéologie nouvelle. Hein. Pour Himmler, ça devait être le centre du monde nouveau, hein, Centrum der Neuen Welt, hein, après la victoire finale. Hein, il faut bien s'imaginer que jusqu'en 1939, hein, jusqu'au moment où la guerre va se déclencher, il y a vraiment une ambition de refaçonner complètement l'Allemagne. Hein. On le sait, Hitler avait des plans de créer une capitale, hein, absolument gigantesque qui se serait construite à la place de Berlin, qui se serait appelée Germania, hein, dont on retrouve les plans, hein, tracés par l'architecte Albert Speer. Hein. Et bah, tout simplement, pour mettre tout ça en place, derrière tout ça, bah, il fallait bien donc justifier d'une idéologie nouvelle, et c'était Himmler qui était chargé de le faire. Les choses les plus impressionnantes sont bien sûr les quêtes archéologiques, alors qu'on retrouve dans pas mal de films, de cinéma, sur notamment bon, Indiana Jones, tout ça, où on voit effectivement tous ces comment dire nazis en quête, par exemple, de l'Arche d'Alliance, hein, ou du Saint Graal, de tout ce qu'on veut, hein, pour bien sûr donner un pouvoir éternel aux armes allemandes, hein, aux armées allemandes, hein, et puis évidemment comment dire une suprématie mondiale. Donc évidemment on est en plein délire, hein, mais ce qu'on voit dans ces films, l'histoire montre que effectivement, bah, malheureusement, ça faisait quand même partie pas mal des délires d'Hitler. Alors à l'origine de tout ça, de cet ordre noir, hein, il y a quand même évidemment des racines historiques. Il ne faut pas oublier que la Prusse, hein, c'est-à-dire ce royaume militariste, hein, situé au nord de l'Allemagne, hein, je vous rappelle que l'Allemagne naît en 1870-71. Hein, l'Allemagne, est proclamée, hein, la création de l'unité allemande est proclamée, je vous le rappelais, dans la galerie des glaces du château de Versailles en 1870, hein, après la défaite, hein, de Napoléon III contre la Prusse, hein, la fameuse guerre de 70. Avant tout cela, bah, il y a quoi? Il y a la Confédération germanique, il y a plein de petits États allemands qui sont à la fois des principautés, qui sont à la fois des royaumes, hein, au nord le royaume de Prusse, au sud le royaume de Bavière par exemple, hein, des petites principautés, bon, etc. Bah, tout ça, la grande affaire de ce chancelier prussien qui était Bismarck, hein, va être tout simplement, bah, de transformer tout ça en un État unifié, c'est-à-dire l'Allemagne. Et à l'origine de la Prusse, rappelez-vous, on en avait parlé, on avait fait une émission là-dessus, hein, il y a l'Ordenstaat, hein, c'est-à-dire l'État-ordre qui avait été créé, hein, au Moyen-Âge, il y a très longtemps, par les fameux, au lendemain des croisades, hein, par les fameux chevaliers porte-glaive, les Teutoniques. hein, qui avait bâti entre les territoires du nord de la Prusse et les États baltes, ce qu'on appelle aujourd'hui les États baltes, les fameuses villes hanséatiques, au bord de la mer Baltique, un véritable État-ordre, un État dirigé par des chevaliers. Bon, tout ça disparaît avec le développement des différents États, dont évidemment le royaume de Prusse un peu plus tard. Mais derrière toute cette idéologie, cette mystique d'histoire d'anciens Germains, germaniques, tout ça évidemment avec le développement, le retour du sentiment du nationalisme allemand, de la revanche après la défaite du 11 novembre 1918. Je vous rappelle que l'aventure de l'Empire allemand en 1870 s'effondre le 11 novembre 1918, puisque la Première Guerre mondiale va mettre un terme à ce qu'on a appelé le Deuxième Reich, le Deuxième Empire allemand. De cette défaite va naître un État que personne ne va tellement aimer, qu'on va appeler la République de Weimar. Pourquoi Weimar ? Parce que tout simplement, elle est proclamée dans une ville qui s'appelle Weimar. C'est aussi bête que ça, d'où son nom. Mais très rapidement, l'esprit de revanche va, notamment développé par des partis nationalistes, comme le parti nazi, qui va faire vraiment son miel, si on peut dire, de cette contestation du traité de Versailles et qu'on mette un terme à ce qu'on liquide entre guillemets les fameux criminels dits de novembre, c'est-à-dire les signataires du traité de Versailles et donc les fondateurs évidemment de la République de Weimar. Et bien sûr, dans ce magma de l'Allemagne des années 20, extrêmement instable, avec des manifestations, un combat permanent entre nationalistes et communistes, puisque bien sûr, n'oublions pas qu'en 1917, avec la révolution bolchevique, souffle sur toute l'Europe vaincue, l'Europe centrale et l'Allemagne, une forte volonté, évidemment, des jeunes partis communistes qui apparaissent partout, tout simplement prendre le pouvoir. Cette histoire de l'expansion du communisme ne remonte pas à la guerre froide, c'est-à-dire après 45, les années 46-47, où là, pour le coup, évidemment, les communistes arriveront à prendre le pouvoir. Mais il faut savoir que dans le début des années 20, tout est dans une situation extrêmement instable, et que, notamment, en Hongrie, éclatera une émergence d'un État en gestation communiste à Budapest en mars 1919. Ce sera la République des Conseils, qui sera écrasée à la fois par les anticommunistes hongrois et les troupes alliées qui étaient encore là. Mais donc la menace est grande. Et donc dans ce magma, évidemment, les vieilles idéologies mystiques germaniques servent évidemment la mystique nationaliste qui va alimenter le parti nazi. Et au centre de tout cela se trouve un homme qui s'appelle Karl Maria Willigut. Ça s'écrit W-I-L-I-G-U-T, qui est né en 1866 à Vienne, donc de l'Empire d'Autriche-Hongrie, et mourant en 1946 donc à Arolsen. Cet homme est le chantre de l'idéologie mystique nazie, c'est absolument incontestable. C'est lui qui, dont le nom est un peu connu, je veux dire, qui va mettre en place effectivement toute une forme d'ésotérisme nazi. Il va tenter de créer dès le début des années 20 un nouvel ordre du temple, c'est tout dire. Ce sera vraiment le maître à penser de Himmler et de tous les idéologues du parti nazi et de la SS. Il va forger littéralement une véritable mystique qui rattache évidemment le nazi, les SS, aux anciens héros de la mythologie germanique, à Wotan, aux anciens dieux, tout cela. Et ce fameux Karl Maria Willigut va être aussi à l'origine de ce qui sera dans la SS le bras armé, si on peut dire, des fameuses fouilles archéologiques tentant de justifier toutes les théories nazies, qui va être l'Annenerbe. là de Nerbe, qui, selon différentes traditions, signifie héritage ancestral, va être une organisation, effectivement, qui va n'avoir de cesse que de parcourir le monde à la recherche d'artefacts divers, on en reparlera tout à l'heure, chargés tout simplement de démontrer, en quelque sorte, eh bien, la justesse de toutes les théories nazies. J'avoue que ça fait frémir, mais néanmoins, c'est une structure quasi de mission archéologique, hein, destinée justement à mettre tout cela en place. Alors, au centre de tout ça se trouve Willy Good, qui quand même est rapidement évincé. On l'a présenté comme le Rasputin d'Himmler, hein, personnage mystique, hein, évidemment, mystérieux. Et puis, assez rapidement, et je vous le rappelle, à partir de 1939, toutes ces initiatives d'Himmler mystiques vont progressivement être mises de côté par Hitler, tout simplement. Tout simplement pourquoi ? Dans le but, évidemment, de consacrer tous les efforts à la guerre, hein, et que ces délires pyramidaux, mysticaux, germaniques, mis en place par Himmler, sont même arrivés, il faut quand même, c'est un peu pas incroyable, à faire peur à Hitler lui-même, quoi. Alors bon, voilà pour ça. En tout cas, ce fameux Willy Good, donc, en voici encore quelques extraits, hein, s'affirme donc être dépositaire d'une tradition orale, qu'on prône un retour à une religion germanique originelle, disparue depuis 1200, donc on retrouve encore la fameuse histoire de notre Ordenstadt. Et Willy Good affirme en 1919 être un mage, hein, dont l'ascendance compterait des magiciens et être doté de dons psychiques, un descendant du dieu Thor. Alors, il y a une des choses, hein, il faut le savoir, dans les fameuses quêtes, hein, par Lannenherb, donc menées par Himmler, ça aurait été de retrouver le fameux marteau du dieu Thor. Moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de jusqu'où tout cela a pu aller, puisque là, évidemment, on estimerait que ces dieux ont existé et que le marteau de Thor aurait existé. Mais ça va bien plus loin que ça, hein, bien plus loin que ça, puisque on a littéralement une chronologie qui est mise en place, hein, rattachant tout simplement à notre temps les fameuses origines mystiques de ce peuple donc supérieur, hein, à rien, développé par Hitler. Hein, ça remonte dans les théories de Willy Good jusqu'à 228 000 avant notre ère, hein, avec la période dite des géants, hein, de la lutte des géants contre les nains, qui dure de 228 000 avant notre ère à 78 000 avant notre ère. Ensuite arrive le temps de la ville de Goslar, hein, la fondation d'une cité, hein, extrêmement puissante, qui va de 78 000 avant notre ère à moins 9 600 ans. Et enfin, une période de décadence qui va de 9600 à 1200, donc ce qui correspond à peu près, en tout cas pour le XIIIe siècle, à la période des fameux porte-greffes teutoniques dont je vous avais déjà parlé dans d'autres émissions, hein, et nous amenons évidemment jusqu'à, entre guillemets, la dissolution, hein, des mœurs de l'époque actuelle. Alors tout ça, évidemment, est forgé, hein, on est dans une mise en place, hein, d'une nouvelle idéologie, hein, donc avec des racines pseudo-mythico-historiques, hein, qui sont mises en place. Alors le bras, on en a parlé tout à l'heure, le plus significatif, scientifique, entre guillemets, si on peut dire, hein, c'est l'Annenerb, hein, l'héritage ancestral. Société, hein, fondée pour la recherche et l'enseignement sur l'héritage ancestral, je cite, un institut de recherche pluridisciplinaire, hein, évidemment inféodé totalement au parti nazi, hein, qui avait été créé par Himmler, hein, à partir du 1er juillet 1935, alors ça nous intéresse, parce que rappelez-vous, ce sont les dates justement où la prise de contact avec l'historien et archéologue Otto Hahn vont se faire, hein, fameux ouvrage dont on a parlé dans une autre émission, hein, je crois la précédente, qui parlait, vous savez, ce livre qui s'appelle la croisade contre le Graal, hein, où Otto Hahn racontait effectivement la fameuse croisade contre les Albigeois, et puis surtout toutes les fouilles archéologiques qu'il avait pu faire dans les Pyrénées, hein, notamment un certain nombre de grotte, hein, où il avait retrouvé des artefacts, effectivement, prouvant que les cathares avaient effectivement toute une religion qui était en train de reconstituer. Donc on connaît les grands traits, mais pour lesquels il s'était passionné, avec notamment des pentacles inscrits dans les murs, hein, tout à fait, qui avaient retenu évidemment son attention. Alors le fameux Zannenherbe, évidemment, va avoir pour tâche, hein, de retrouver, hein, notamment, comme je disais tout à l'heure, la plupart de ces artefacts. Alors l'Institut avait pour objet d'étude la sphère, l'esprit, les hauts faits et le patrimoine de, je cite, la race indo-européenne nordique. Hein. Donc encore une fois, nous revoit la partie dans les théories évidemment raciales d'Hitler, hein, sur ces fameux Aryens supérieurs, hein, floués de leur espace vital, hein, ce qui justifiera évidemment à partir de 1941 la fameuse guerre à l'Est, hein, à la fois anticommuniste, mais aussi pour gagner des terres, hein, pour les fameux colons de la société future, hein, que ces individus croyaient un jour pouvoir bâtir. Alors, donc, l'outil de recherche, c'est évidemment l'archéologie en premier lieu, hein, donc voilà un peu dans les fameux Indiana Jones qu'on connaît, hein, l'anthropologie raciale et l'histoire culturelle de la race aryenne, je cite, son but était de prouver la validité, évidemment, des fameuses théories. Hein, voilà. Alors, on connaît jusqu'à aujourd'hui plusieurs faits, hein, liés à ça. Ces faits, le plus connu, c'est celui de la fameuse lance dite de Longinus. Hein. Cette lance, qu'est-ce que c'est ? C'était, en théorie, une relique, en fait, hein, remontant alors là, à l'époque du Saint-Empire romain germanique, voire avant, hein, qui était conservée à Vienne, qui d'ailleurs elle est toujours, hein, vous pouvez tout à fait l'admirer, elle est toujours conservée, je crois, dans la Schatzkammer, c'est la chambre du trésor à Vienne, hein, où se trouvent tous les trésors de l'Empire d'Autriche, l'Empire d'Autriche-Hongrie, hein, et puis avant du Saint-Empire, tout était conservé là, c'est un lieu extrêmement intéressant à visiter. Et cette fameuse lance, donc, aurait été la lance que le centurion Longinus aurait lancée contre le Christ, alors que celui-ci a évidemment été crucifié sur le Golgotha, et vous savez très bien que c'était un miracle, puisqu'il en serait sorti de l'eau, hein, du corps du Christ, etc. Donc c'est un objet évidemment hautement symbolique, sacré, miraculeux, hein, une véritable relique religieuse, hein, un peu comme la couronne d'épines du Christ, hein, vous le savez bien, qui est conservée à Paris, hein, que Saint-Louis avait récupéré, là, ça nous ramène bien plus loin. Hein. Vous savez que la Sainte-Chapelle à Paris a été construite, hein, tout entière, pour recueillir cette relique, hein, qui aujourd'hui est conservée à Notre-Dame, fait partie du trésor de la cathédrale de Notre-Dame. Est-ce vraiment la couronne d'épines du Christ? Personne ne vous le dira jamais. En tout cas, cette lance, Hitler met la main dessus tout de suite, dès évidemment l'Anschluss, hein, et donc la récupère, puisque bien sûr, ça fait partie des objets que les nazis croyaient magiques, hein, pouvant leur conférer un pouvoir important. Bon, voilà pour la lance donc de Longinus. Ensuite, il y a une histoire moins connue qui est celle des fameuses sept serrures de Prague. 1939, quand Hitler va s'emparer de ce qui reste de la Tchécoslovaquie, hein, après les accords de Munich, hein, tout ça est bien connu, et que les nazis vont entrer dans Prague, hein, dans la cathédrale Saint-Guy, hein, cette cathédrale Saint-Vite, hein, Saint-Guy en français, qui est un chef-d'œuvre du gothique centre-européen, hein, eh bien, Hitler va devoir tenter de mettre la main sur le fameux trésor, hein, le fameux trésor, évidemment, des rois de Bohême, trésor considéré comme étant un trésor sacré. C'est l'affaire des sept serrures de Prague. Qui est, pourquoi sept serrures? Parce que ce trésor, eh bien, n'est accessible que dans un coffre qui comporte sept serrures. Et ces sept serrures donc, sont en rapport avec sept clés. Et ces sept clés sont entre les mains des sept dignitaires les plus importants de la République tchécoslovaque. Il se trouve que les nazis n'arriveront pas à mettre la main dessus parce que tout simplement ils n'arriveront pas à récupérer les fameuses sept clés, hein, des sept serrures de Prague, et Hitler ne pourra pas prendre, s'emparer de la couronne sacrée des rois de Bohême. Là aussi, il s'agissait évidemment de s'attribuer des pouvoirs. Bon, évidemment, on pense bien que tout ça était complètement illusoire, mais pas pour les nazis. Et cette histoire des serreurs de Prague est une histoire extrêmement intéressante. Bien sûr, personne n'a fait sauter le coffre, puisqu'il ne s'agissait pas évidemment d'aller détruire ce qui se trouvait à l'intérieur. Ça, c'est un épisode moins connu. Puis alors encore un autre, alors pour le coup celui-là très connu, c'est la fameuse affaire du Saint Graal. Il est tout à fait exact que Himmler, en tout cas jusqu'au début de la guerre, a mené tout un tas d'opérations de recherche, notamment dans le nord de l'Espagne, dans les Pyrénées, pour mettre la main sur le fameux trésor du Graal. C'est l'histoire de toute la liaison qu'il y a avec Otto Hahn, qui sera évidemment totalement noyauté, manipulé et intégré dans la SS, jusqu'à ce que celui-ci finisse probablement par se suicider. On ne sait pas tellement les raisons de sa mort. Otto Hahn, mais disons que c'est la fameuse quête du Graal, c'est-à-dire, alors là, il s'agit évidemment le Graal, vous savez, c'est la coupe dans laquelle le sang du Christ aura été recueilli par Joseph d'Arimathie lors de la passion du Christ sur le Golgotha, toujours encore, donc on avait la lance de Longinus, évidemment, la fameuse mystique, vous savez bien, de l'histoire de Parsifal, avec donc la lance et le Graal, dans la légende du fameux chroniqueur Eschenbach, dont on a déjà parlé, repris en France après par Chrétien de Troyes, enfin, etc. Ce Graal, les archéologues entre guillemets de la Nanerbe vont tenter de s'en emparer. Mais ils ne le trouveront jamais, ni dans le château de Montségur, dont on pensait que c'était Montsalva, ni de l'autre côté, dans différents châteaux du nord de l'Espagne. Ça restera évidemment un échec, évidemment, de la quête des nazis. Bon, on connaît évidemment la fameuse histoire de l'Arche d'Alliance. Là, c'est davantage évidemment dans le célèbre film Les Aventuriers d'Arche Perdue, mais on sait que tous ces objets ont tenté d'être récupérés, ou on a tenté de les retrouver. Cette Annonerbe comportait 137 savants, 82 techniciens, des libraires, des secrétaires. C'était vraiment une organisation donc au service, mettant la science au service de l'idéologie. On a compté jusqu'à 38 instituts de recherche jusqu'en 1944. Et cette structure, évidemment, a fini par être totalement démantelée, ainsi que toutes les autres structures du Troisième Reich. Après le procès de Nuremberg, évidemment, en 1945, c'est l'aspect, évidemment, n'oubliez pas qu'il y avait aussi un aspect scientifique, médical, aussi, d'aller faire des tests, des mesures de visage d'autres peuples, etc. Bon, des images assez choquantes qu'on trouve encore sur Internet, et malheureusement aussi, dans ce volet dit scientifique, entre guillemets, ce sont, vous le savez aussi, toutes ces expériences horribles menées sur les déportés dans les camps de concentration. C'est évidemment ne jamais oublier que on nage dans cette structure, cette nébuleuse mystique autour de la SS, on retrouve et on replonge très rapidement dans l'horreur. Il ne s'agit pas évidemment de faire un comparatif entre les régimes totalitaires, ça n'aurait aucun sens, mais l'aspect certainement le plus effrayant, c'est une conviction profonde, quand on analyse historiquement toute cette période, l'aspect le plus terrifiant de cette période 1933-1945 et du nazisme, c'est l'aspect méticuleusement scientifique de tout ça. C'est-à-dire de mettre en place une idéologie de la mort calculée de manière millimétrée et scientifique, qui aboutit aux chiffres que j'ai voulu vous rappeler en début d'émission, parce qu'il faut toujours les avoir à l'esprit. Hein. Le fameux dernier directeur, hein, et on va s'approcher de la conclusion de cette émission là-dessus, hein, Wolfram Sievers, hein, dernier directeur de Lannenherb, hein, pour la petite histoire, a été jugé par les Alliés, hein, et condamné à l'issue du procès des médecins pour crimes contre l'humanité, hein, en raison de recherches médicales, hein, que l'Institut avait mené sur les fameux cobayes humains. Il a été exécuté et pendu en 1948. Ne jamais oublier cet aspect-là, hein, bien sûr, dans cette, comment dire, cette, dans cette, cet aspect. Voilà ce que l'on peut dire. Voilà un peu sur ce parcours que l'on a mené ensemble depuis le mois de septembre 2016, de voir un peu finalement que si il y a beaucoup de faits archéologiques, de faits historiques qui restent nimbés d'un brouillard de mystère, hein, dans l'histoire. On a parlé de la période du roi Arthur, de toutes ces périodes extrêmement lointaines de l'histoire, de tout un tas de lieux, hein, notamment, je sais qu'on en avait discuté dans cette émission, savoir où se trouvait le fameux mystique Avalon, hein, la fameuse île mystérieuse, hein, de la période du cycle arthurien. Eh bien, que malheureusement, hein, tous ces mystères, toute cette mythologie, un peu quelque part, est régulièrement, hein, régulièrement dans l'histoire, hein, récupérée par n'importe quel type de pouvoir, hein, à travers l'histoire, c'est-à-dire n'importe quel type de pouvoir, qu'il soit royal, qu'il soit impérial, qu'il soit totalitaire, comme on l'a vu ce soir, hein, pour justifier n'importe quelle théorie, et parfois les plus dangereuses. Hein. Donc, il faut toujours, et c'est incontestablement le rôle de tout un chacun, bien sûr, mais aussi le rôle d'un historien, quel qu'il soit, de montrer tout simplement les faits tels qu'ils sont, hein, et aussi de suggérer quand même, hein, de toujours garder, tant qu'on peut le faire, notre liberté d'esprit, hein, notre liberté de jugement, et surtout notre esprit de vigilance, hein, sur cette, comment dire, récupération que l'on peut voir. Tenter de dire qu'on va retrouver le marteau de Thor pour avoir un pouvoir absolu, qu'on va retrouver le Saint Graal, hein, ou même se servir de la langue de Longinus, hein, à des fins magiques. Oui, effectivement, il y a un moment donné, il faut se dire que on est dans une récupération parfois qui est à la limite du délire parfois, hein, et voire de délire dangereux, parce que mis en place pour des idéologies qui se basent sur avant tout la destruction, hein, rien d'autre, hein, la destruction de l'être humain, bien sûr. Surtout ce, eh bien, je me propose de conclure cette émission. Je vous remercie d'avoir écouté toutes ces émissions tout au long de l'année 2016-2017. Et nous aurons le plaisir de nous retrouver à la rentrée 2017, le dernier donc jeudi de septembre. Ce qui devrait nous mener ensemble donc pour une prochaine émission, de prochaine thématique, le 28 septembre donc 2017. C'était donc Olivier Buret sur la web radio TerraZen. Merci encore à Cédric pour cette antenne tout au long de cette année 2016-2017 ensemble. Et pour Histoire du soir. Et je vous dis donc à bientôt. Bel été à toutes et à tous.